Donc, Luc, Andrew Scheer a démissionné ce matin. Il va rester à la tête du Parti conservateur du Canada jusqu'à ce qu'un ou une nouvelle chef soit choisie. Est-ce que c'est une démission qui te surprend?
Pas du tout. J'ai eu le plaisir et l'honneur de la prévoir. J'avais dit ça tout de suite après l'élection, comme d'ailleurs j'avais prévu qu'il perdrait. Mais, par contre... Il y avait des gens qui avaient prévu le contraire, avec quelques arguments à la clé quand même. Paul Wells, il disait tout le temps, tu peux t'attendre, c'est le chroniqueur du National Post, il disait, quand tu analyses la politique canadienne, tu peux toujours t'attendre à ce que ce soit le scénario le plus plate qui devienne la réalité. et puis, c'est pareil que c'est immanquable. Hein. Quand c'est le plus plate, ça gagne. Alors, lui avait dit, Scheer va rester là. Mais finalement, non. Il a perdu parce que, bien qu'il ait eu plus de votes que Harper au sommet de sa gloire. On oublie ça. Harper, en 2011, avait moins de votes que Scheer. Il a aussi permis d'ajouter 26 députés au caucus depuis la dernière élection. C'est pas mal. Ce sont des bons résultats. Mais tout le monde voyait bien qu'il n'y avait pas de direction donnée au parti. Et ça va prendre quelqu'un qui a des épaules extrêmement larges pour en donner une. Parce que on dit les conservateurs, mettent tout ça dans le même bain. Mais il y a énormément de conservateurs de types différents. Puis, oui. D'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis aussi. Il y a les conservateurs qui sont seulement des conservateurs fiscaux. Ils veulent que, bon, ils sont libre-échangistes, ils veulent avoir le moins de taxes et d'impôts possible, ils veulent la réduction de la taille de l'État. On se rappelle d'ailleurs que Mulroney a perdu en 93 parce qu'il avait implanté la TPS. Mm. C'est ce qui lui a fait perdre le pouvoir. Il y a la droite religieuse qui occupe quand même une partie des votes, puis les conservateurs hésitent tout le temps à se débarrasser de cette droite religieuse-là parce que c'est quand même 10-15% des votes.
Ben, tu vois, écoute, tantôt j'ai parlé à Alain Reyes, qui était le lieutenant politique de monsieur Scheer, qui est député d'Arthabasca, et lui, d'une part, il disait le prochain chef, là, écoute, faut pas qu'il soit pro-vie. Et aussi, j'ai demandé d'estimer, disons, le nombre de conservateurs là, sociaux, comme tu les décris. Là. Lui, il dit que c'est 20%. Puis, évidemment, lui, il dit que c'est pas beaucoup. Ce qui est vrai, c'est pas beaucoup, mais Luc, moi, je serais curieux de savoir, là, disons, à l'ouest du Québec, là, c'est quoi la proportion de militants qui s'impliquent, qui donnent de l'argent, qui posent des pancartes, qui font des appels pour sortir le vote, qui sont des conservateurs sociaux. Moi, je pense que c'est une force assez importante
de ce parti-là. C'est un peu comme on pourrait poser la même chose avec Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire qui a des militants qui sont beaucoup plus à gauche que leurs députés et qui s'impliquent beaucoup. Et là, on a ça avec les conservateurs. Puis, regarde, Michael Chung, qui était... lui avait dit qu'il irait sans problème à une marche sur la Gay Pride, là, sur la marche gay, qu'il était, il voulait pas entendre parler de religion, il était pro-immigration, pro-climat même, mais est arrivé quatrième et loin derrière tout le monde dans la course aux conservateurs. Néanmoins, c'est par là que ça passe. Il n'y a pas une maudite chance que les conservateurs puissent s'emparer du pouvoir s'ils ne percent pas le Québec et l'Ontario. C'est pas compliqué, ça. Ils peuvent en élever. Là, ils ont eu une majorité soviétique en Saskatchewan, en Alberta. Ils peuvent plus en gagner d'autres. Là, il faut qu'ils s'étendent ailleurs. Et pour s'étendre ailleurs, il va falloir qu'ils commencent à accepter de parler de climat. Et il va falloir qu'ils commencent à se moderniser un peu. Et moi, je ne vois pas de conservateurs qui vont être capables de faire ça et qui vont être acceptés par la base conservatrice.
C'est ça, parce que si tu veux élargir ton assiette électorale pour engranger des votes, ça se peut que tu irrites grandement les gens qui vont poser des pancartes, les gens qui font des appels puis qui donnent de l'argent à ton parti.
Absolument. Puis et aussi... il y a toute la question du climat, de la taxe carbone puis du pétrole. Je veux dire, à la limite, ils vont peut-être pouvoir s'entendre pour mettre de l'eau dans leur vin sur la question de la place de l'État puis de la place de la religion. Mais ils s'entendront jamais sur le pétrole.
Mais je te soumets une hypothèse, OK? Les conservateurs choisissent une femme, Ronan Ambrose ou Caroline Mulroney, t'envoient le message que, écoute, sur l'avortement, pour nous autres, le débat est clos. On est pro-choix. Ça pourrait faire changer d'idée à pas mal de monde.
Oui, mais il y en a une excellente candidate, son nom m'échappe, puis qui était à la course et qui est arrivée elle aussi avec des clopinettes au niveau des votes. Là. Puis elle a repris beaucoup du poil de la bête depuis. Là. Son nom va me revenir, mais là, pour l'instant, ça m'échappe.
Sais-tu pour qui j'ai eu une pensée?
Non.
Maxime Bernier.
Ouh! Explique-moi ça!
OK, Maxime Bernier, là... il est arrivé deuxième par la peau d'une pie de vache. Là. Puis j'utilise pas l'expression à tort et à travers. C'est vraiment le vote des agriculteurs qui a fait perdre Maxime Bernier au leadership conservateur quand il a été battu par Andrew Scheer. S'il était resté, là, s'il était resté le fidèle second puis qu'il avait été un bon soldat, il n'y a personne aujourd'hui qui se dirait c'est de la science-fiction que Maxime Bernier succède à Andrew Scheer, mais il a préféré aller créer son parti,
oui, c'est ça,
le Parti populaire du Canada.
En fait, toi, ce dont tu aurais rêvé, c'est de un Maxime Bernier qui n'est pas le Maxime Bernier. Parce que un Maxime Bernier qui est quand même une personne articulée, présente, charismatique, mais malheureusement, pas avec les idées de Maxime Bernier. Ça serait peut-être une chance de gagner.
Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? S'il était resté dans le parti, moi, je pense que Maxime Bernier aurait eu une chance de prendre le leadership.
De faire le lien entre toutes ces factions-là.
Mais là, il a failli... c'est un traître maintenant dans la famille.
Effectivement. Mais moi, je suis persuadé, ma prédiction, c'est que la personne va venir d'en dehors des rangs des conservateurs.
Et écoute, 17h15, Luc, et on me glisse à l'oreille que les conservateurs du Royaume-Uni ont plus de succès, disons, qu'au Canada, parce qu'on vient d'apprendre, semble-t-il, là, que on sait qu'il y a des élections au Royaume-Uni.
Oui,
et le Parti conservateur de Boris Johnson, on sait que Boris Johnson était premier ministre, disons, pas élu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été élu. Il avait succédé à Mme May. Il viendrait d'être élu avec une nette majorité. On parle de 368 sièges sur les 650 disponibles contre 191 pour le Labour.
Il va pouvoir faire toutes les niaiseries qu'il a essayé de faire dans les dernières années et qu'il n'a pas pu faire.
C'est ce qu'indique le sondage de sortie des urnes. Ouais. Les résultats définitifs vont être connus dans la nuit. Donc, si c'est vrai, bien, ça veut dire qu'il y a un mandat fort pour M. Johnson pour ce qu'on appelle le Brexit, la sortie de l'Union
Absolument.
Européenne.
Et c'est fabuleux de voir un des peuples qui est les plus raffinés, sophistiqués en termes politiques de la planète élire quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Quelqu'un qui s'est cassé les dents à plusieurs reprises dans ses négociations avec l'Europe en prétendant qu'il allait réussir à imposer à l'Europe des solutions qui n'ont jamais fonctionné. Et là, ils vont être obligés de s'en aller vers un Brexit dur, donc une sortie pure et simple.
Mais Luc, quand OK, je comprends ce que tu veux dire, mais le Parti travailliste est désorganisé, il est miné par des éléments antisémites.
Ouais.
Ça revient toujours dans la face du leader, M. Corbyn.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, je comprends ce que tu dis, là. Moi aussi, là, des fois, je regarde les conservateurs britanniques, puis je trouve que, mon Dieu, c'est pas toujours cohérent, mais ils font de la politique. Puis, à un moment donné, la gauche, là, si elle veut gouverner, là comme ailleurs, il va falloir qu'elle apprenne à faire de la politique aussi.
C'est toujours le grand dilemme.
C'est dans le plateau, c'est facile de gagner quand t'es à gauche, mais un pays au complet.
Ouais, c'est ça. C'est là que ça mène à l'indépendantisme. J'ai toujours rêvé de ça, moi, l'indépendantisme du plateau.
OK, pas du Québec. T'es pas un séparatiste, toi?
Ah, je l'ai été, comme tous les jeunes de ma génération, voyons donc. Il n'y avait pas un maudit fédéraliste à part Charest. Tu sais.
OK.
C'est tout.
Puis là maintenant?
Ben, ça a évolué. Ça évolue à toutes les semaines dans une direction différente. Fait que je pense pas que ça ferait une très bonne... On peut pas en parler en profondeur. Mais tu sais, tu dis que les conservateurs, les gens de la gauche vont devoir se réorganiser. On le voit avec Québec solidaire, leur déclaration sur une élection référendaire, combien ça a pu paraître surprenant à leur dernier congrès. C'est vrai que la gauche a de la difficulté à trouver des idées porteuses qui rassemblent puis qui font pas peur. Mais la droite a exactement le même problème. T'sais, Boris Johnson, il est en train de gagner, mais c'est la dernière personne que les Anglais auraient voulu voir gagner. Madame May, qui était là avant lui, avait beaucoup, beaucoup plus d'ascendant sur la population. Malheureusement, à force de pression de cette droite conservatrice extrêmement anti-immigration, on oublie ça, extrêmement anti-immigration que représente Boris Johnson, ben ça donne aussi des gens qui sont peu représentatifs de la population. Fait que c'est à droite comme à gauche, c'est la même chose. Et on n'arrive pas à avoir ces hommes et ces femmes d'État qui ont porté une nation sur leurs épaules en étant capables de créer des consensus.
Merci beaucoup, Luc. On se retrouve demain.
À demain.
17h19 au retour, c'est la chronique de Pierre-Yves McSween et je vous promets qu'il n'y aura aucun calembour dans sa chronique.